Jusqu'à maintenant, depuis les semaines antérieures, on a vu beaucoup de messages qui nous parlaient des bénédictions que Dieu nous donne en Jésus. Il n'y a rien de plus important que ça dans ce monde que tout ce que Dieu a préparé, puis comment est-ce qu'il veut prendre soin de chacun de ses enfants. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il nous prend en charge. Mais là, on va changer un peu l'aspect en regardant aussi une autre partie, un autre sens, ou de dire, disons, en regarder d'autres versets qui nous parlera plutôt de notre engagement face au Seigneur. Parce que là, on a vu ce que le Seigneur faisait pour nous. Ça, tout le monde le veut. Tout le monde veut prendre ce que Dieu a pour nous. Maintenant, on va regarder, à partir de cette semaine et les semaines qui viennent, on va regarder ce que Dieu nous demande à nous maintenant de lui donner en échange. Qu'est-ce qui s'attend de nous? Dieu a-tu des attentes pour son peuple? Ou on pense qu'il nous a tout donné et on n'a rien à faire? On a juste à se laisser gâter. Oui, Dieu est prêt à nous gâter, puis j'enlève pas ce parti-là, mais il nous demande des choses en retour, puis c'est ce qu'on va regarder ensemble. Le premier des messages, c'est de chercher à être un imitateur de Dieu le Père et de son Fils. Dieu veut qu'on les imite. Il y a plusieurs versets qui parlent dans ce sens-là, comme qui dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ça dit de marcher dans l'amour comme Dieu est amour. Puis il y a toutes sortes de points qui nous demandent d'être comme lui. Dieu a-t-il des attentes envers nous? Il a investi beaucoup dans notre vie depuis qu'on est sauvé, puis il est prêt encore à investir beaucoup en nous, mais que s'attend-il de tous ceux qui s'approchent de lui pour être sauvés? Y a-t-il des attentes? Ah, est-ce qu'il nous dit, reste là, tout est accompli, t'as pas besoin de rien faire, ou il dit, viens, puis là, fais ci, fais ça, ou travaille à ci, travaille à ça. Oui, Dieu, il y a un appel pour chacun de nous. On va survoler les enseignements que nous aurions si on vivra au temps des apôtres. Parce que moi, je ne suis pas de la catégorie de ceux qui regardent que le positif. Parce qu'il y a des églises qui parlent que du positif. Puis tout va bien, tout est beau, puis restez comme vous êtes, puis on va tout avoir. Puis il y en a d'une autre partie, il y a d'autres versets qui parlent de notre responsabilité en tant que chrétien. Puis que même il y a des enjeux, tout dépendant si on prend notre responsabilité ou si on ne la prend pas, il y a un enjeu, il va y avoir des conséquences même dans nos vies si on n'embarque pas. Ça, on n'entend pas souvent parler, mais si on sera dans le temps des apôtres, on entendra parler parce que les apôtres l'ont écrit dans des chapitres de la parole de Dieu. Il veut nous donner des directions pour des changements que Dieu veut mettre en nous, mais qu'il veut que ça soit en nous, puis qu'il nous demande à nous aussi de faire des efforts pour arriver à devenir dans cette position-là. Quand tu es chrétien, ça coûte quelque chose, c'est ça qu'on va voir, on va commencer à voir. On verra pas tous les points aujourd'hui, mais déjà, de vouloir être un imitateur de Dieu, c'est déjà bien gros. Moi, je dois être comme un imitateur, imiter Dieu, puis imiter Jésus, puis chacun de nous, on doit être des imitateurs. Comment Dieu nous prouva-t-il qu'il nous aimait, puis comment est-ce qu'il a fait pour nous appeler à lui? Qu'est-ce que ça lui a coûté à Dieu le Père pour que nous montrer qu'il nous aimait? Dans Jean 3,16, c'est le verset le plus facile de la Bible, le plus appris par cœur. Dieu a tant aimé le monde. Dieu l'a prouvé qu'il aimait le monde. Il n'a pas juste dit « je vous aime ». Ça serait bien facile de dire juste « je vous aime ». Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est cette partie-là que ça a coûté de quoi à Dieu pour prouver qu'il nous aimait. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son amour a été démontré par des actions. Il a donné son Fils, puis il nous demande d'être son imitateur. Ça s'arrête pas là. Comment lui, Yeshua, le Messie, nous prouve-t-il qu'il nous aime puis qu'il nous appelle? C'est la même affaire. Dans Romains 5,8, ça nous le dit. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsqu'on est encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus nous a prouvé qu'il nous aimait. Il a donné sa vie. Pas juste donné sa vie pour la vivre pour nous. Il l'a donné, dans le vrai sens du mot, il est mort. Ça a coûté sa mort pour nous, pour donner une preuve qu'il nous aimait. Dieu nous demande de l'imiter. Ça s'arrête pas là aussi, là. Il n'a pas juste donné son Fils puis donné sa vie. Dieu nous a tout donné, tout ce qui était nécessaire pour qu'on soit sauvés, pour être sûr qu'on se rende au bout. Il nous a donné tout ce que les chrétiens avaient besoin pour être sauvés puis rester sauvés. Il a tout fait. Ça, on voit ça dans 2 Pierre 1:3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse marcher dans la piété. Être pieux, c'est être une personne qui prie, qui loue Dieu, qui cherche la face de Dieu, qui marche avec Dieu, qui sert Dieu. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui aime Dieu puis qui marche avec Dieu. Puis il nous a tout donné pour qu'on ait la vie puis qu'on marche dans la piété. Comment? En nous révélant, il nous a, au moyen de la connaissance, il nous a révélé toute sa volonté. Il nous a révélé ce qu'on avait besoin de savoir pour être capable d'avoir la vie puis de marcher dans la piété. Fait qu'il n'a pas juste donné sa vie. Il a donné son Fils, Jésus a donné sa vie, puis en plus, il a donné tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir la vie, puis qu'on puisse marcher dans la piété toute notre vie. Il a tout fait. Si quelqu'un n'est pas sauvé là à la fin, c'est pas parce que Dieu l'aura pas tout fait. Dieu a tout fait pour que tout le monde sur la planète soit sauvé. Même pour nous, il a tout fait. Pour nous, ce qu'on a, là, la connaissance, les révélations, les discours qu'on a, tout ce qu'on apprend là, depuis qu'on est chrétien, c'est la connaissance révélée par Dieu dans le but de nous garder dans la foi, puis qu'on marche en portant du fruit pour lui, pour y rester ferme jusqu'à la fin. Tout le bagage est là. Fait, s'il y en a un de nous autres qui ne rentre pas à la fin, comme qu'on a dit tout à l'heure, parce que d'un vierge, il va en avoir qui ne rentreront pas. Mais si on ne rentre pas, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas tout fait. Il nous a prouvé son amour en nous donnant tout ce qu'il nous fallait pour être sûr qu'on se rend. Là-dedans, on voit l'amour du Seigneur. Là. Si on continue, il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. On connaît Jésus, on connaît le Messie, on connaît son enseignement, on connaît ce qu'il nous a révélé. On en parle à tous les semaines. Puis, ça dit au verset 4, juste l'autre verset après, il nous assure, c'est une assurance qu'on a, il nous a assuré de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il n'y a rien de plus grand que les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. Pas juste la promesse, vous êtes guéri. La promesse de la vie éternelle, la promesse de faire partie, de rentrer dans la ville sainte un jour, puis de vivre éternellement avec Dieu, passer l'éternité avec le Créateur. Il a déjà donné ce qu'il y a de plus grand comme promesse dans ce monde. Puis en plus, c'est pas juste ça. Puis grâce à ces promesses qu'il nous a données, au verset 4 encore, « Afin que par elles, ces promesses, on devienne participants de la nature divine. » De pouvoir déjà, sa terre, et une promesse aussi pour l'éternité, qu'on goûte sa présence, qu'on goûte sa puissance, qu'on goûte ce que Dieu fait, qui investit dans nos vies. Ça, c'est grâce à ses promesses, grâce au Seigneur qui s'est donné, puis grâce à Dieu qui a donné le Seigneur. Tout ça, là, ça fait partie encore des bénédictions ou de l'amour de Dieu qu'on a, de pouvoir tout connaître cela. Puis on est participant de la nature divine. Qu'est-ce que ça produit? Quand tu es participant de la nature divine, tu vas fuir la corruption qui existe dans le monde. Parce que tu goûtes à la nature divine, ça va te donner une force de fuir la corruption, puis de marcher dans la sainteté. L'apôtre Paul, lui, nous dit, puis il dit ça à tous les chrétiens, l'apôtre Paul, maintenant, c'est à nous d'imiter le Christ. Dans 1 Corinthiens 11, 1, ça dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Tous les chrétiens sont appelés à imiter le Christ, à imiter le Seigneur, à imiter Dieu, à imiter, faire comme lui, pour devenir comme lui. On est transformé à son image, c'est ça que ça veut dire, on devient des imitateurs de Dieu. Pas faire à semblant, comme des hypocrites, là, des mimes qui font semblant, d'être des vrais comme lui, c'est un vrai adorateur, un vrai prieur, un vrai qui aime le monde parce qu'il veut les sauver, un vrai comme le Seigneur. On a à imiter le Seigneur. Puis, pas juste dans les fruits, là, imiter dans sa consécration, imiter dans le point qu'il était capable, le Seigneur, de donner sa vie. Il veut qu'on imite le Seigneur pour être autant comme Jésus qui s'est donné pour la cause du royaume de Dieu. Puis que chacun de nous se donne pour comme Jésus, imiter Jésus, se donner comme j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. J'ai donné ma vie, je le suivrai, le marcher dans ce monde en chrétien, marcher dans ce monde pour faire changer des choses, parce que Dieu nous envoie dans ce monde pour changer des choses. Il cherche notre implication à faire comme Jésus. Combien est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire comme Jésus, à aller avancer dans ce monde pour être comme Jésus? Nous sommes appelés à nous offrir nous-mêmes comme Jésus s'est offert pour nous sauver. Mais on doit s'offrir pour sauver les autres. Si on le fait pas, ils seront pas sauvés. Dans Romains 12, on le voit jusqu'à quel niveau que la Bible elle dit. On en parle souvent dans ce verset-là parce que c'est un verset qui nous engage. Mais je vous exhorte, ça veut dire qu'il nous encourage, il nous pousse, ah ouais, go! Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à vous offrir, chacun de vous, à vous offrir pour servir le Seigneur. Tu donnes au Seigneur pour que ta vie appartienne au Seigneur, pas juste appartenir, pour qu'il puisse se servir de toi. Pour que tu sois là, dans l'action, dans les choses qui ont à être faites dans cette ville, dans les villes et les villages environnants. Ça prend des gens en action. Si ce sera Jésus qui sera là, oui, il viendra dans le temple le jour du sabbat. Puis après ça, il s'en retourne dans les rues, puis il s'en va parler du Seigneur. C'est ça que le Seigneur faisait. Puis il s'attend à ce qu'on se donne comme lui s'est donné, à être un imitateur de Jésus, tu l'imites. Tu te donnes, il dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça va être de ta part un culte raisonnable. Tu fais rien d'extraordinaire en faisant ça. C'est juste raisonnable de se donner. Christ s'est donné, c'est ma devise, mais là, c'est à mon tour à me donner. Il y a un autre chant qui dit ça. On a tous à se donner, frères et sœurs. C'est pas juste le pasteur ou les anciens. Tout le monde, est-ce que vous vous sentez sauvé? Est-ce que vous savez que vous avez la vie éternelle? Est-ce que vous savez que vous avez été appelé par Dieu? Mais si vous le savez, faut que vous sachiez aussi que c'est votre responsabilité d'une des attentes de Dieu à votre égard, c'est que vous vous offrez à Dieu en sacrifice pour l'avancement de son royaume. De chercher premièrement le royaume et la justice. Puis là, il nous dit de ne pas se conformer au monde présent, puis d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, puis qu'on discerne la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Plus que tu vas te donner, plus ton intelligence va changer. Puis tu vas comprendre de plus en plus ce qui est bon, puis qui est agréable, puis ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Se donner à Dieu est de plus une des conditions pour être sauvé. Parce qu'on lit dans la Bible, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, croit dans son cœur, tu seras sauvé. Est-ce le seul verset qui est écrit dans la Bible? C'est pas entièrement la vérité en prenant juste un verset. Faut que tu prennes aussi l'autre qui va avec, qui parle du même sujet, qui rajoute des choses qui font partie de « si tu veux être sauvé ». Puis laissez-moi bien, soyez attentifs à ce que je vais vous lire comme verset. Se donner à Dieu est en plus là une des conditions pour être sauvé, pas juste le confesser. La Bible, c'est la vérité. La Bible, le Nouveau Testament, c'est la vérité. Une vérité, mais dans l'ensemble des versets, pas juste un verset. C'est à moitié d'une vérité, puis peut-être un fragment de la vérité. S'il y a 30 versets qui parlent comment être sauvé, puis de quoi, qui sont les conditions pour être sauvé, si tu as 30 versets qui en parlent, la vérité, c'est quand tu regardes les 30 versets. Ça va bien plus que juste croire. Vous allez le voir ensuite. Il s'attend de nous à ce qu'on s'engage pour lui, qu'on s'avance pour sa cause. Dans Marc 8, 34, ça en a un autre qui s'ajoute dans la même ligne de pensée pour être sauvé. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, Jésus le dit à la foule et à ses disciples. Il le dit à ses disciples. Puis même parmi ses disciples, il y en a un qui ne l'est pas sauvé. Judas, il n'est pas rentré dans la vie éternelle. Pourtant, il était là pour l'entendre. Il n'a pas compris ce verset-là que je vais vous lire. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est des versets pour le salut. Tu veux venir après Jésus. Jésus, ce qui est allé, est rentré dans la vie éternelle, lui. Puis il dit, « Si tu veux venir après lui, renonce à toi-même. » Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, on voit l'engagement. On voit l'engagement, la responsabilité du chrétien de renoncer. Lui, Judas, il n'a pas renoncé. Il était voleur, il en voulait encore plus. Il n'a pas renoncé à ses péchés. Il a continué à pratiquer ses péchés. Ça l'a amené à des péchés plus grands, puis il n'est pas rentré. Verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Avez-vous compris? Moi, je ne suis pas là pour vous examiner votre vie. Y a-t-il des choses que vous avez perdues, le fait de suivre Jésus? Est-ce qu'il y a encore des choses à perdre pour continuer à suivre Jésus? Celui qui perd sa vie, celui qui veut la sauver, sa vie, la perdra. Celui qui la perdra, sa vie, à cause de moi, et... de la bonne nouvelle, la sauvera. Ça coûte quelque chose pour être chrétien. Il dit, renonce à toi-même, prends ta croix sur moi. C'est bien plus que, là, oh, Seigneur, je suis prêt à te confesser. Je crois que tu es sauveur. Mais il n'est pas encore sauvé parce qu'il a dit ça. Tu as beau avoir la croyance dans ton cœur, les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu, puis ils tremblent. C'est pas juste une croyance du cœur, c'est un engagement. Dieu a des attentes, puis il s'attend à ce qu'on s'engage pour son royaume. Il y a des choses que tous les chrétiens doivent commencer à mettre en pratique dans leur vie, que lui va nous enseigner. Mais là, on parle aujourd'hui d'être comme Jésus, d'imiter Jésus. Il était jusqu'au bout à donner sa vie, puis il nous demande à nous de renoncer à la nôtre pour le suivre. C'est pas un slogan. C'est pas juste « Ah oui, les gars », c'est une règle à suivre pour la foule et ses disciples. Puis là, il ajoute Jésus en disant, ben là, à ce point-là, déjà, il va perdre sa vie à cause de Jésus et de la bonne nouvelle. Dans ce verset-là, il y a deux choses qu'un chrétien doit faire. Démontrer qu'il aime Jésus, puis être au service de répandre la bonne nouvelle. Tous les chrétiens, renoncer, puis quand ça coûte quelque chose pour suivre Jésus, c'est de s'engager à défendre Jésus, puis à défendre sa parole, à répandre la parole. Puis là, il en parle de sa parole dans l'autre verset. Il dit, que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Puis là, il dit pourquoi il parle aussi de sa parole. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, ça veut dire, il faut pas que tu aies honte, faut que tu en parles de Jésus. Faut que tu en parles de sa parole quand tu es chrétien. Faut que tu annonces le royaume. Il y en a qui étaient allés voir Jésus. « Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon père. » Il dit, « Laisse les morts ensevelir les morts, puis toi, va annoncer le royaume de Dieu. » C'était pas un apôtre, ça, là. C'était un genre de la foule qui disait, « Moi, je suis bien prêt, Seigneur. Je crois en toi, je suis prêt à tuer, mais il faut que j'aille enterrer mes parents. » Non. « Laisse les morts ensevelir les morts. Va annoncer le royaume. » Tous les chrétiens sont appelés à annoncer le royaume. Faut vous réaliser ça, frères et sœurs. Ça démontre au Seigneur que vous avez de la foi. Ça démontre au Seigneur que vous êtes engagé, que vous voulez imiter Jésus comme Jésus l'a fait, lui a donné sa vie pour la bonne nouvelle. Mais nous aussi, nous demande de donner notre vie pour la bonne nouvelle. Quiconque honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, mais le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père et avec ses saints anges. Il y a une partie, là, quand il dit qu'il aura honte de ceux qui ont honte de sa parole, là, c'est comme les vierges qui n'étaient pas en règle devant Dieu et ne sont pas rentrées. C'est pas suffisant juste de dire « Seigneur, Seigneur ». Faut s'engager à suivre Jésus. Faut le démontrer par notre vie qu'on est des chrétiens. Comme on disait tout à l'heure, on allume la lumière, le monde va sentir notre odeur, qu'on aime le monde, puis qu'on sert le Seigneur, puis il sert, puis pas juste des gestes, on en parle, on n'a pas honte de Jésus, puis on n'a pas honte de ses paroles. Il n'y a pas de parole plus importante. C'est beau ce que les gouvernements disent, puis là, les vidéos sont pleines sur YouTube de ce que les gouvernements disent, puis que le monde dit. On s'en fout, ça compte pas aux yeux de Dieu. Alors regardez plutôt ce que Dieu lui a dit. Sa parole. Puis n'ayez pas honte de ça. Affichez-la partout ce que vous pensez. Laissez des pamphlets, mettez des affiches devant vos maisons, dans vos maisons, devant vos maisons, pour que le monde dans la rue voie que vous êtes des chrétiens. Sur Internet, si Dieu vous appelle à prêcher à radio, allez-y. Si Dieu vous appelle à prêcher à TV, allez-y. Allez s'afficher partout ce qu'on passe par avoir honte de Jésus. La différence qu'il y a entre les croyants en Jésus et les gens du monde, ça se voit par leur cœur à aimer et à vouloir servir le Seigneur. C'est facile à voir quelqu'un qui aime le Seigneur à différent de quelqu'un dans le monde qui s'en fout du Seigneur. Lui, il vit nullement pour le Seigneur. Il s'affiche pas, il n'en parle pas, puis quand il en parle, il va parler contre. Tandis que quelqu'un qui aime le Seigneur, ça paraît. Comment? Il passe son temps d'en parler. Le monde va le trouver peut-être fatigant, mais il est en train de briller dans ce temps-là, quand il parle. C'est ça qui fait la différence. Les vrais disciples, ils aiment à s'appliquer et à mettre en pratique la parole. Dans Matthieu 7, regardez bien, là, ça continue dans la même pensée. Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourtant, ils croyaient au Seigneur, ils ont tous confessé le Seigneur, puis sont là, Seigneur, Seigneur. Ça prie, là, ça loue le Seigneur, mais ils rentreront pas nécessairement. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui va rentrer. C'est ceux qui mettent en pratique, qui font, qui s'affichent. Ils n'ont pas honte de Jésus. Ils sont là, puis ils font des efforts. Ça coûte quelque chose à se donner pour imiter Jésus qui s'est donné. Puis même les apôtres, regarde-là aller comment est-ce qu'ils s'affichaient. Ils appellent ça, ils exposaient sa vie. Quand tu es au front, là, tu parles, là, tu t'exposes à te faire cracher dans la face, à te faire donner des claques, à te faire niaiser, à te faire humilier, à te faire injurier. Puis que là, les esprits sont peut-être contre toi, mais tu t'en fous, toi, tu es là pour Jésus. Puis lui, il te soutient, puis il t'aide, puis il t'accompagne, puis il y a ses anges autour de toi. C'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » assis dans les bancs ou chez eux qui vont rentrer, c'est ceux qui font la volonté du Père, qui font la volonté. Là, il dit, Jésus il ajoute, « Plusieurs me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Puis là, Jésus va leur dire ouvertement, « Je vous ai jamais connu. » Ouch! Je n'ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est des gens dans le péché. Oui, ils parlent aux chrétiens. Ils disent Seigneur, Seigneur, mais dans leur vie, ils marchent dans le péché. Le mot iniquité que là, c'est parce que c'est un mot qui est mal compris. Le mot original qui est là, dans le grec, là, l'iniquité. C'est la condition de celui qui est sans loi. Soit parce qu'il ignore la loi ou parce qu'il y a viol. Il y a connaît, mais il y a viol la loi. Quelle loi? On ne parle pas nécessairement de la loi de Moïse. On parle des lois de la loi de Christ parce que tous les commandements sont répétés dans le Nouveau Testament, plus un paquet de choses que Jésus a enseignées dans les, mettons, sur le sermon sur la montagne, là. Il parle de quelle manière qu'un chrétien doit vivre, tendre l'autre joue, faire un mille de plus, donner son côte. Il y a plein d'affaires, plus servir le Seigneur. Ça, c'est des règles de la grâce. On est sous la loi de Christ. Il y a une loi, même si on se dit qu'il est sans loi, qu'il n'est pas sous la loi de Moïse, mais on est sous la loi de Christ. Puis Jésus les appelle des iniquités, ces gens-là, des gens iniques, parce qu'ils sont sans loi. Ils ne pratiquent pas. Ils se disent, en Jésus, j'ai rien à faire. J'ai le cadeau, j'ai la vie éternelle, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ils pensent ça. Mais il y en a qui sont convertis, mais ils ont été mal enseignés. Ils ont reçu des enseignements de dire, t'es sous l'hyper grâce, t'es toujours pardonné, t'as jamais besoin de demander pardon. Mais il peut s'avoir converti puis être tourné de même dans sa vie parce qu'il entend des... C'est que là, ils passent peut-être pour apparence des chrétiens, mais ils ne marchent plus en chrétiens. Paul il dit, il y en a qui marchent en ennemis de la croix, puis leur fin sera la perdition. C'est parce qu'ils ne croient pas à ça que le salut peut se perdre. Moi, je le vois, il y a au moins 90 versets dans le Nouveau Testament qui dit que le salut se perd. Mais, comme je vous dis, moi, je veux vous enseigner ça comme dans le temps des apôtres. C'est dans le temps des apôtres, ça a tout été écrit, ça. Puis là, aujourd'hui, ça nous est resté 2000 ans plus tard. C'est des versets de la Nouvelle Alliance. Si tu veux vraiment être sûr de faire partie des enlevés, marche, obéis, mets en pratique ce qui est écrit. C'est une des attentes que Dieu s'attend, comme rien que normal de s'offrir notre corps à Dieu en sacrifice vivant, c'est juste un culte raisonnable de se mettre à obéir. C'est ceux qui ont de mépris et qui violent la loi, c'est de l'iniquité, ils marchent dans la méchanceté. Tu peux penser que t'es accompli en Jésus tout en pratiquant des péchés volontaires, puis là, ils pensent que tout est beau. Puis ils demandent parce qu'ils ont été mal instruits. Le Seigneur s'attend que l'on marche comme Jésus a marché. Jésus n'en faisait pas de péché. Fait que le but, le focus, faut vivre sans péché. C'est le focus. Je te dis pas que tu n'auras pas de tentation. Tu vas en avoir des tentations. Tu vas en avoir des combats. Tu peux tomber même. Tu t'enfarges dans quelque chose, puis tu te relèves, tu demandes pardon, puis tu continues à faire des efforts pour être un témoignage, être quelqu'un qui lutte, qui combat, qui se bat pour vraiment être quelqu'un qui applique la parole dans sa vie. Dans 1 Jean 2, 6, ça nous dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, si tu penses, si tu dis, je demeure en Jésus, je suis en Jésus. » La phrase, elle ne s'arrête pas là. Ça dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme aussi il a marché lui-même. » Pour vraiment te penser que tu marches en Jésus, tu devrais marcher aussi dans tes pratiques de tous les jours, comme Jésus a marché, dans le caractère de Jésus, dans les paroles de Jésus, les pensées de Jésus, les actions de Jésus. Il faut vraiment s'engager et à faire des efforts pour atteindre ce chemin-là, pour rester en Jésus. En demeurant ferme à continuer d'être dans ses voies, il nous garantit qu'on va rester debout dans nos épreuves. Écoutez, Jésus, là, c'est salutaire. Mais je répète la phrase parce qu'elle est un peu longue, là. En demeurant ferme à continuer d'être dans ses voies, si tu fais des efforts pour marcher, pour appliquer la parole de Dieu dans ta vie, là, mais ça va te garantir que tu vas rester debout, même malgré les épreuves. Plus qu'on va faire des efforts, plus qu'on va être fort puis résistant, puis peu importe les épreuves qu'on va vivre, si tu fais des efforts pour suivre Jésus, il va arriver n'importe quoi dans ta vie, tu vas rester là. Tu ne chercheras pas à lâcher. Parce que tu fais des efforts. Si tu vis selon les vagues, là, puis là, tu te laisses aller sur un bord, sur l'autre, puis tu te laisses aller selon le courant va t'emporter. Jésus l'a donné son exemple dans Matthieu 7, 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ce que je dis, c'est Jésus qui dit ça, et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie va tomber, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée. Si une personne fait des efforts pour mettre en pratique la parole, pour l'appliquer à sa vie, tu vas être tellement fort qu'il va y avoir des tempêtes qui vont venir dans ta vie, puis tu vas être encore debout. C'est ça que Jésus a dit. Il dit, cherche à mettre en pratique ce que j'enseigne, puis tu vas voir ça, que tu, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas être encore debout. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. C'est dans cette condition-là que Jésus nous protège. Si tu es un gars qui veut pas la mettre en pratique, le contraire de ça, c'est de bâtir sur le sable. Si tu lis l'autre portion, après, c'est ce qu'il explique. Tu bâtis sur le sable, le vent va venir, la pluie va venir, puis les torrents, puis ça va emporter la maison, puis sa ruine va être grande. Si on veut être fort dans le Seigneur, mais il faut s'appliquer, faire des efforts à la mettre en pratique, à imiter Jésus, à faire ce qu'il nous dit. J'entends pas gros d'amen. Vous avez le droit de dire amen n'importe quand, parce que quand vous dites amen, vous êtes en train de, c'est comme planter un clou de plus pour solidifier votre maison. C'est vrai. Amen, c'est ce que je crois, Seigneur, puis c'est vrai, puis c'est ça qu'on veut. Qu'il en soit ainsi. Tous ceux qui s'engagent à marcher à sa suite, tous ceux qui s'engagent à marcher à sa suite, pas juste dire, je vote pour Jésus. S'engager pour marcher parce qu'il dit « renonce à toi-même ». Je m'engage, je renonce, je vais dans ma vie chercher par que Dieu me guide, qu'il me montre ce qui s'attend de moi, puis que je m'implique, puis que je fasse des choses qui servent à bâtir le royaume. Il dit, moi je dis, tous ceux qui s'engagent à marcher à sa suite seront bénis de Dieu. Dans Marc 10, 29, ça nous dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, on voit encore les deux, de Jésus et de sa parole, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, puis dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il n'y a personne qui, ayant quitté, ça a coûté quelque chose aux chrétiens. Des fois, là, ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, là, tu as une persécution, ils veulent que tu lâches le Seigneur. Toi, tu es prêt à dire, tu es prêt à tous les laisser pour suivre le Seigneur. C'est le même. Puis il y en a plein de chrétiens qui ont vécu ça à cause qu'ils se sont convertis, leurs femmes les ont laissés. Eux autres, ils ont resté fidèles au Seigneur, puis ils ont marché avec le Seigneur, puis le Seigneur, il dit, tu vas retrouver des bénédictions. Puis en plus, la fin, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous avons dans notre marche avec Jésus à faire des efforts pour atteindre les changements dans les différents aspects de notre vie spirituelle et morale. Il faut faire des efforts, frères et sœurs. Ça coûte quelque chose d'être chrétien. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » C'est quoi ça, faire tous nos efforts? Ouais, mais faire un effort, oh, j'ai lu 2 minutes la Bible un matin. À un moment donné, faire tous nos efforts, c'est même si ça ne nous tente pas, on la rouvre notre Bible ou on l'écoute ou en audio. On veut prier, même si ça ne nous tente pas, on fait des efforts pour rejoindre à notre foi les choses qui nous manquent. Parce que notre vie, là, y a-t-il quelqu'un qui est rendu parfait comme Jésus ici? On a tout encore de quoi changer. Ouais, c'est pas en changeant d'église que finalement trouver une église qui te convient. Mais c'est vrai que dans les derniers temps, c'est dit, ils vont changer de. Ils ont le goût d'entendre des choses agréables, puis ils vont se donner une foule de docteurs. Ils changent de pasteur parce qu'ils ne veulent pas entendre des choses qui demandent des efforts. Ils veulent entendre des choses agréables. Ben moi, je suis pas dans les agréables. Oui, j'en ai prêché des agréables les derniers messages. Là, je suis rendu dans les efforts. Ce qu'on a à faire. Puis j'ai dit, c'est d'amener des paroles qu'on aurait si on serait dans le temps des apôtres. Parce qu'ils ont tout écrit ça, puis c'est le même qui parlait aux gens dans ce temps-là. Ils s'attendaient à ce que le monde se repente. Quand il y a eu la conversion de 3000 personnes, il lui disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Il n'était pas gêné de le dire, que le monde est pervers, puis sortez de là. Quand que Jésus te sauve, il ne faut pas juste dire « je te donne le pardon ». Non, il te sauve, il te sort du monde, il te sort des griffes du diable, il t'arrache des ténèbres, il t'emmène dans la lumière. Il y a bien plus que juste dire « je te pardonne ». Il te sort de la génération perverse, il t'emmène dans un royaume qui est un royaume, le royaume de Dieu, c'est pas du manger et la boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il nous amène dans un autre monde qu'on vit. Mais là, on ne fait pas juste recevoir. Là, quelque part dans ce monde-là, on se met à réaliser, « Oups, Dieu s'attend à ce que je m'implique. C'est quoi, Seigneur, tu veux que je fasse dans ton beau royaume? » Puis on a tous de quoi faire. Faut que tout le monde trouve sa place. Faut que tout le monde trouve sa place, puis tout le monde participe. Participer aux réunions de prière, participer aux réunions de louange, participer aux réunions d'études de la parole, participer dans l'évangélisation. Puis même quand on est en dehors de la vie d'église, là, dans la semaine, vous pouvez participer à répandre la. Prenez-vous une pile de pamphlets, passez-en dans la ville où ce que vous restez. Tu sais, un semeur sorti pour semer. Quand que je disais qu'il faut faire des efforts, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, parce qu'on a la foi au départ, on croit que Jésus est mort, mais joindre à la foi à la vertu à la science la tempérance, tempérance la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. tu as des efforts à mettre un paquet d'affaires dans ta vie. Puis même quand tu les as mis, faut que tu fasses des efforts pour les conserver, ces affaires-là. Parce qu'il arrive des fois, un an après, oups, tu retombes encore dans une de ces affaires-là. Il nomme plein de points, là. Puis c'est tous des points qu'on va regarder ensemble dans le prochain message. Ça ne durera pas juste une semaine. Ça ne durera pas une semaine. Si nous sommes sérieux dans notre marche avec Jésus, là, avec lui, on va porter beaucoup de fruits pour Dieu. Si on est sérieux là, dans notre engagement, on va en avoir plein de fruits dans notre vie. Si on continue le verset après, où ce qu'on vient de lire, là, dans 2 Pierre 1, verset 8, « Car si ces choses sont en vous, je parle d'avoir fait tous tes efforts à joindre à ta foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Si tu as fait tes efforts pour rentrer ça dans ta vie, ça, il dit, ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Vous ne serez plus des paresseux spirituellement. Être oisif, c'est être paresseux spirituellement, puis stérile, c'est du monde qui ne porte pas de fruits. Vous allez avoir plein de fruits, puis vous allez être toujours dans le service pour Dieu, puis vous allez être porté de plein de fruits pour Dieu, parce que vous êtes en, ces choses-là sont en vous, puis vous avez mis tous vos efforts pour les ajouter en vous, puis s'ils sont en vous avec abondance, tu vas en avoir plein de fruits dans ta vie. Au verset 9, il dit, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. » Ça veut dire, si c'est un chrétien qui écoute la parole, puis elle rentre par une oreille, puis elle sort par l'autre, puis il fait pas d'effort pour appliquer les points dans sa vie, c'est un aveugle. Un chrétien sauvé, mais aveugle. Tu peux être chrétien, pas voir où tu t'en vas dans ta vie chrétienne. Mais là, on est en train de regarder, puis là, on est tout, on a tous les yeux ouverts en entendant ces versets-là. Un non-pratiquant. C'est comme elle dit que tu es végétarien non pratiquant. Tu peux pas. Il y en a qui sont chrétiens non pratiquants. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, ils ne rentrent pas. Parce que c'est ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que Dieu lui demande. Dieu veut pas qu'on soit aveugle. Il s'attend à ce qu'on voit, puis qu'on soit pas oisif, qu'on soit en activité. Puis il dit, tu seras pas stérile, tu vas être plein de fruits si tu t'appliques à ajouter ces choses-là à ta vie. Puis là, il dit, si tu es aveugle, si tu l'as pas, puis tu vois pas de loin, puis t'as mis en oubli, t'as oublié que t'as été purifié de tes anciens péchés. Parce que si Dieu t'a purifié, c'est parce qu'il voulait t'en sortir. Puis si le gars, il arrête de résister dans sa vie, puis se laisse aller à toutes les corruptions de ce monde, écoute bien. Nous devons nous appliquer à grandir et à nous investir. Puis là, à cause de cela, on ne tombera pas. Si on s'applique à mettre en pratique, tu ne tomberas pas. C'est la même chose que j'ai dit tantôt. La tempête va venir, la maison va rester debout. Mais le verset suivant, c'est ce que Pierre dit. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation puis votre élection. Il dit pas que le Seigneur le fasse. C'est à nous de s'appliquer pour ajouter ces choses-là dans notre vie. Appliquez-vous à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il est en train de parler exactement comme Jésus l'avait dit. Le mot « strong » dans le dictionnaire biblique là, pour « appliquer », quand il dit « appliquez-vous », s'appliquer, là, le mot veut dire « se hâter », »,« faire vite », »,« avec out », »,« se remuer ». Se donner du mal pour le faire, là. Ah ouais, go! S'efforcer! Tenter de faire quelque chose. S'appliquer! C'est ça que ça veut dire, ce mot-là. Quand il dit, appliquez-vous d'autant plus à vous affirmer votre vocation. On devrait tous se sentir qu'on est dans l'effort d'être transformé, de changer de manière de penser, de changer de manière de parler, changer de manière de servir, pour qu'on soit en train de servir de plus en plus pour le Seigneur. Oui. Oui. On est dans l'armée du Seigneur, puis c'est comme des ordres, les commandements du haut niveau qui nous sont donnés. Le Seigneur, c'est le grand commandant de son armée. C'est le Seigneur des armées, l'Éternel des armées. C'est dans cet effort-là à s'appliquer là, pour être changé. C'est dans cet effort que notre entrée dans le royaume éternel sera pleinement accordée. L'autre verset de Pierre, c'est ce que ça nous dit. C'est ainsi, en effet, si tu es dans l'application, si tu fais tous tes efforts à produire du fruit et à être au service du Seigneur, tu vas rester ferme, mais en plus de ça, c'est de même que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. On veut-tu rentrer facilement au ciel, si on rentre sur la peau des dents, là, juste à sa limite, là. On avait la foi, là. Puis on bougeait presque pas, là, puis c'est à peine si on a réussi à se rendre où on veut rentrer, puis on rentre sans forcer, parce qu'on était des gens actifs pour le Seigneur, puis le Seigneur, il connaît ses brebis. Quand il va venir, là, puis il va séparer les boucs puis les brebis, là, ou quand il va venir, quand les 10 vierges sont là, puis celles qui sont prêtes, il les ramasse, il les connaît toutes, ses brebis. Il sait lesquelles qui sont prêtes, puis celles qui ne le sont pas. On peut, même si on jouerait beau visage à l'église devant tout le monde, si on n'est pas chrétien du tout dans notre vie, tu sais, on fait zéro effort, le Seigneur nous connaît. Il connaît ses brebis ici, c'est quelles qui sont des gens actifs puis qui veulent produire du fruit pour le royaume. Tu veux qu'il te laisse? Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. À l'autre, méchant serviteur et paresseux. Quelle approche que vous voulez recevoir quand Jésus va venir vous chercher? Ça n'a même pas rapport à qu'il va prendre une église puis il ne prend pas l'autre. Non, c'est individuel. Moi, je vais me présenter pour moi. Chacun de vous, vous allez vous présenter pour vous. Puis moi, je vous encourage à être des gens qui foncent dans l'œuvre de Dieu, parce que Dieu vous connaît, puis Dieu va vous faire rentrer facilement. Puis il vous dit que pendant votre vie terrestre, là, les tempêtes vont venir, mais vous allez rester debout. Amen. On va faire une prière pour finir cette réunion-là. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est vraie. Je te remercie de te révéler à chacun de nous, Seigneur, pour le zèle qu'on doit avoir dans notre cœur à vouloir te servir, à marcher avec toi. C'est pas une question de gagner notre ciel, c'est une question d'obéissance, c'est une question de démontrer notre foi. Seigneur, tu nous appelles à renoncer à nous-mêmes, à s'investir pour ton royaume. C'est ce qu'on veut, Seigneur. Continue à nous forcer, pas nous forcer, à nous former, à nous graver ces paroles dans notre cœur, puis qu'on puisse combattre contre notre chair, contre notre volonté propre, contre le diable, contre le monde, pour qu'on soit des gens qui produisent de plus en plus de fruits pour ton royaume. Seigneur, on remet nos ventres à tes mains. Je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen. Seigneur, je viens de prier aussi pour ceux qui écoutent ce message-là, puis qui veulent s'engager à te suivre puis à te servir. Seigneur, je veux te faire une prière, puis j'invite ces gens-là qui écoutent, ceux que c'est peut-être la première fois que vous l'entendez ou ça fait plusieurs fois, puis votre cœur bouille, il y a quelque chose qui vous pousse dans votre cœur à réagir, puis à répondre au Seigneur, puis à vous engager à suivre le Seigneur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu t'a pardonné. Maintenant, marche avec le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu, puis marche avec le Seigneur, puis un jour, on va se retrouver l'autre bord dans l'éternité. Amen.